Donc pour ce soir, eh ben, je vous remercie bien Marc Moyon d'avoir accepté de donner cette conférence grand public. J'avoue que dès que je lui ai écrit, il a dit oui tout de suite. Il a été tout de suite partant. Après, il a peut-être regretté, je ne sais pas, d'avoir dit oui. Donc pour le présenter rapidement, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, donc Marc Moyon est maître de conférence en histoire des mathématiques à l'Université de Limoges. Il est directeur de l'ESPE de Limoges, je ne dis pas de bêtises. Et puis moi, je le connais surtout beaucoup à titre de membre de la commission inter-IREM en épistémologie et d'histoire des sciences. C'est là que j'ai eu l'occasion de le connaître. Dans ses axes de travail, il y a entre autres l'introduction d'une perspective épistémologique et historique dans l'enseignement, l'utilisation de textes originaux, pour approcher les mathématiques, mais pour aussi avec une approche interdisciplinaire. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'entendre parler, soit d'expériences menées en classe avec des élèves, de l'intérêt de cette approche, de cette perspective historique. J'ai vu aussi donner une conférence à des étudiants de sciences qui n'étaient pas du tout des étudiants de maths, mais voilà, qui étaient passionnés, qui l'ont écouté en entier. Et c'était moi aussi, j'étais passionnée, donc très intéressant. Sinon, autour de ces axes de travail aussi, à côté de cette partie plus tournée vers l'enseignement, c'est tout ce qui est autour de la circulation des savoirs et des pratiques scientifiques dans les pays d'islam, la circulation des textes arabes, les traductions arabo-latines et autres. Et donc, la conférence de ce soir, donc, pour s'adresser à un large public, mais qui reprend, voilà, qui s'appuie sur des travaux de ces thèmes de recherche, donc la géométrie au Moyen-Âge de Boès aux traductions arabo-latines du XIIe siècle. Je lui laisse la parole et je le remercie encore.
Merci Nathalie. Je dois donc commencer par remercier Nathalie Chevalarias et Pierre Ageron, tous les deux co-responsables de la commission inter-IREM Histoire et épistémologie des mathématiques, sans qui je ne serais pas là, sans Nathalie ni Pierre et sans la commission non plus d'ailleurs. Oui, j'ai regretté Nathalie, évidemment, parce qu'on on se lance, on a envie, et puis bah, arrivé il y a 10 jours ou 12 jours, j'ai reçu un tweet avec le programme MADES France, conférence, Marc Moyon, géométrie, j'ai dit « oh ya ya, c'est dans 12 jours, il faut que je m'y mette ». Bon, donc j'avais envie de vous parler de plein de choses, je vais vous parler de plein de choses. Et puis peut-être faudra refaire une conférence bis pour approfondir toutes les choses dont j'avais vraiment envie de vous parler ce soir. Et puis surtout, j'ai accepté parce que c'était la conférence grand public. Et donc j'avais envie de parler au grand public. Je suis désolé les copains et les copines matheux et matheuses. Mais il y a beaucoup plus d'images que de maths. Et la question était vraiment d'essayer de faire pas un panorama parce que, ou une synthèse, parce que ça fait, c'est un peu pompeux pour moi, mais donner des touches comme ça de ce que pouvait être la géométrie au Moyen-Âge, avant et au moment où la science des pays d'islam arrive en Europe latine. Donc pourquoi j'ai un peu souffert? C'est parce que c'est un peu finalement la préhistoire de l'histoire qui m'intéresse jusqu'à maintenant. Donc il a fallu que je me replonge dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et surtout beaucoup de manuscrits. Et c'est plutôt ces images-là que j'ai envie de vous montrer. Donc les images ce soir, ce seront des documents de travail qui occupent une partie de mes journées. Enfin, la partie intéressante de mes journées. Très rapidement, le plan en trois parties, n'est-ce pas Anne-Marie, c'est toujours en trois parties un plan, la Trinité. Columel, qui est... alors là, je commence par un mensonge, parce que je vous ai promis de parler de Boès aux traductions arabo-latines, et Columel, il est avant Boès. Donc, l'historien, il commence toujours avant. Alors, je vais vous parler de Columel, géomètre avec plein de guillemets, enfin en tout cas entrante et ouvrante et fermante. Et j'expliquerai pourquoi je le nomme géomètre et pourquoi en fait il n'est pas vraiment géomètre. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le retient pour les antiquisants de l'Antiquité tardive. Puis le gros morceau, finalement, consistera en l'exploitation, la façon de penser la géométrie dans ce qu'on a appelé plus tard dans l'historiographie le corpus agrimensorum, et puis quand même parler des traductions arabo-latines qui vont nourrir la géométrie et pas seulement les mathématiques, les sciences en Europe latine à partir du XIIe siècle. Alors, donc, commencer par Columelle. Pourquoi commencer par Columelle ? Columelle est un agronome, en fait. Il s'intéresse davantage, bien davantage à l'agriculture qu'à la géométrie. Mais si j'en crois les anciens, il y en a plein qui se sentent concernés quand je dis les anciens. C'est-à-dire, si je remonte par exemple à Hérodote ou encore Héron d'Alexandrie, premier siècle de l'ère chrétienne, eh bien, géométrie, et ce que va reprendre d'ailleurs les encyclopédistes, hein, géométrie, c'est la mesure de la terre, l'étymologie du terme géo et métros. Et donc, c'est pas tout à fait étonnant de voir dans cette histoire de la géométrie des agronomes ou des. Ce qu'on va appeler géoponique, corpus géoponique, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la fois à l'agriculture et à l'élevage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des centaines et des centaines de pages de manuscrits où on vous explique comment, qu'est-ce qu'une bonne terre, qu'est-ce qu'une terre aride sur laquelle ou dans laquelle ou à partir de laquelle on ne peut pas cultiver grand-chose ou certaines espèces et pas d'autres, comment on peut réorganiser des terrains pour avoir le meilleur rendement possible, où est-ce qu'on peut faire pousser des oliviers le mieux possible, etc. etc., etc. Bon, tout ça, c'est très très intéressant. Moi, j'y comprends pas grand-chose. Et il se trouve que finalement, quand on veut être un bon agronome, eh bien, on se pose aussi des questions de maths, des questions de géométrie. C'est-à-dire que pour calculer, évidemment, ça fait appel à des mathématiques, un rendement, eh bien, on doit bien prendre comme unité quelque chose. Donc, une unité de surface et puis une production, par exemple. Donc, à partir du moment où on commence à parler unité de surface, on parle surface et donc on parle mesure de surface. D'accord. Et donc là, la géométrie, elle est intimement convoquée par ces auteurs qui ne sont pas, je le répète, géomètres, mais qui nécessairement doivent faire appel à des éléments de géométrie. Alors pourquoi Columelle, maintenant encore plus ? Parce que c'est un auteur latin du 1er siècle de l'ère chrétienne, de l'Empire romain. Et en fait, il est originaire, et ça c'est très intéressant, il est originaire de Cadix, par là. Alors, vous la reverrez, cette carte, tout à l'heure, avec des noms un peu différents, avec des couleurs un peu différentes. Mais malgré tout, ce bassin méditerranéen qui m'intéresse particulièrement. Donc, Cadix, il est originaire de Cadix, c'est probablement là, à Cadix, ou autour de Cadix, qu'il fait sa formation. Et il va, en fait, être auteur et acteur à Rome. Évidemment, capitale de l'Empire. Donc c'est un auteur particulièrement intéressant parce que finalement, probablement, quand on lit son texte, De Re Rustica, eh bien, on a peut-être l'idée des pratiques géométriques qui pouvaient se faire à Cadix ou dans la région de Cadix vers le 1er siècle de l'ère chrétienne. Alors, vous allez voir pourquoi c'est intéressant, parce que moi, je m'intéresse particulièrement à cette région-là, la péninsule ibérique, mais quelques 10 siècles plus tard. Bon, voilà, on y reviendra, si vous voulez. Alors, je vous l'ai dit, le De Re Rustica, c'est le nom de son livre. Alors, quand on dit son livre, c'est en fait une somme de plusieurs livres. Et le livre 5 de Columelle s'appelle « Comment tu dois mesurer les formes données aux champs ». Donc là, vous voyez qu'on est très clairement dans le domaine de l'agriculture et qu'en même temps, on commence à avoir un petit lexique qui nous mène vers de la géométrie. Étant donné que la diversité des formes des champs fait problème, nous indiquerons ci-dessous les figures géométriques que nous utiliserons comme méthode générale pour toutes les autres surfaces. Donc il y a l'idée là chez Columelle de « j'ai des champs ». tous ces champs, ils ont une forme. Toutes ces formes ne sont pas nécessairement géométriques au sens premier du... Enfin, elles sont géométriques, indiscutablement, mais elles ne sont pas nécessairement canoniques de la géométrie des grands géomètres. C'est-à-dire, sont-elles carrées, rectangles, losanges, parallélogrammes, qui sont les formes usuelles ou circulaires, etc. Mais par contre, si elles ne le sont pas, elles peuvent être approchées par ces formes-là. Donc déjà, premier élément... on va regarder les formes usuelles et puis on va essayer de voir ces champs, à quoi je vais pouvoir les ramener. Et bien pour Columel, tout champ est un carré ou un rectangle ou une forme de coin ou triangulaire ou un rond ou encore un demi-cercle ou bien un arc ou encore, il montre quelquefois une forme à plusieurs angles. Et donc là vous avez l'ensemble de la table des matières du chapitre géométrique de Columel. Je vais m'intéresser avec Columel à l'ensemble de ces surfaces-là et le calcul de la mesure de ces surfaces. Bon, alors allons-y. On ne va pas tous les faire, parce que là, je ne sais plus à quelle heure je dois finir. De toute façon, il faut m'arrêter. Par contre, il faut me dire, Nathalie, sans blague, quelques minutes avant, quoi. Je vais m'intéresser à des formes, juste pour vous donner un peu aussi l'idée du texte de Columel et quel type de mathématiques il peut mettre en place. Donc là, on s'intéresse au champ triangulaire, mais pas n'importe quel triangle. Alors, vous voyez déjà que cet agronome, c'est pas seulement un agronome quand même. Parce que, bon, on aurait pu prendre un triangle scalène, un triangle classique. Trois côtés, il n'est pas tout à fait... il est sans doute un peu rare de trouver un champ triangulaire et ensuite de repérer que le champ triangulaire est exactement un triangle équilatéral. Donc vous voyez qu'il y a aussi derrière, et ça c'est très très important pour le Moyen-Âge, l'idée d'avoir des problèmes qui mettent en scène une situation de type répondre à un besoin, de type quotidien, qui n'en est pas un, mais plutôt un exercice de style ou exercice scolaire. D'accord ? Je dirais exercice pour la formation d'une corporation. D'accord ? Et peut-être d'ailleurs les agronomes pour le coup. Alors, ayant 300 pieds sur chacun de ses côtés, que ce nombre soit multiplié par lui-même. Donc voilà comment Columel propose de mesurer un triangle, mesurer un champ triangulaire, triangle équilatéral. Vous allez reconnaître, pour les matheux, un algorithme de manière assez simple qu'on peut scratcher ou pythoniser, comme vous voulez, avec n'importe quel type d'élève. Que ce nombre soit multiplié par lui-même, ce sera 90 000 pieds. Que soit pris le tiers du résultat, c'est-à-dire 30 000. De même que soit pris le dixième, c'est-à-dire 9 000. Que soit ajouté l'un et l'autre des deux résultats précédents, ce sera 39 000 pieds. Nous disons que ce résultat correspond aux pieds carrés qui sont contenus dans ce triangle. Donc j'ai un triangle équilatéral. J'ai la donnée, et ça c'est assez facile à mesurer. C'est assez facile à mesurer à condition que j'ai un instrument. Ah, autre question intéressante pour le Moyen-Âge, la question des instruments. Et quel instrument ? Bon, là, vous voyez que pour un agronome, il ne se pose pas ce genre de questions. C'est donné. J'ai 30 pieds ou 300 pieds, 300 pieds sur chaque côté. Et puis, j'obtiens une aire en pieds carrés. Bon, on est loin du système métrique, hein ? Bon, des pieds par des pieds. Alors, pour les non-matheux, on peut s'arrêter là. Pour les matheux, on peut continuer un peu. Eh bien, si je regarde C, le côté du triangle équilatéral, je vais avoir, je prends le carré de C, C fois C, je vais prendre le tiers du produit et le dixième du produit, et l'auteur me demande d'additionner le tiers et le dixième du produit. Bon, bien, si on fait ça, c'est pas mal, c'est simple. C'est-à-dire, ce sont des opérations élémentaires qu'on sait faire depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, et qu'on sait très bien faire au Moyen-Âge. Un des problèmes, ce sont les fractions, mais un tiers et un dixième restent des fractions simples. Et donc, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si je regarde, moi, ce que je sais faire avec mes outils d'aujourd'hui, qui ne sont pas très évolués, hein, c'est quatrième, là, parce qu'il faut juste un peu de Pythagore, on sort une racine de 3, j'ai, finalement, si j'interprète un peu ce problème-là, j'ai une approximation de racine de 3, ici, à environ 1,733, qui est une bonne approximation au millième, si je me souviens bien. Bon, mais évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de racine carrée chez Columel, il n'y a pas d'extraction de racine carrée chez Columel, et surtout, il n'y a aucun rapport ici entre une procédure de type algorithmique et un raisonnement géométrique basé sur, allez, je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le répéter, par exemple, le théorème de Pythagore, qui me permettrait de calculer la hauteur du triangle équilatéral connaissant les côtés. Bon, c'est tout. Je m'arrête là. Voilà une page d'un manuscrit conservé aujourd'hui à Florence, où vous voyez tout à l'heure dans la liste des formes géométriques qui intéressent Columel, certaines de ces formes. Là, vous avez le cercle, le demi-cercle, un arc, l'hexagone. Et puis, ça continue, l'heptagone, l'octogone, l'énéagone, le décagone, etc., etc. Certains auteurs, et ça c'est très intéressant, parce que ça sera un marqueur pour l'historien des mathématiques médiévales, arabes et latines, l'historien des mathématiques va s'intéresser à la manière dont les auteurs vont agencer les figures les unes avec les autres, ou les unes après les autres. En particulier, ici, on n'a pas un comportement classique qui serait que le cercle est une finalité d'une suite de polygones. Alors que chez beaucoup d'auteurs, le cercle ne viendra qu'après une série de polygones, jusqu'à, par exemple, le 15-gone ou le 16-gone. C'est pas un problème. Alors, et là, les auteurs ne le disent pas, mais ce sont toujours des polygones réguliers. Quitte à approcher, de toute façon, la forme d'un champ, autant l'approcher avec quelque chose qui est un peu plus facile. Et donc là, c'est intéressant parce que les auteurs qui considèrent le cercle comme l'aboutissement d'une série de polygones, on pourrait imaginer qu'ils considèrent que le cercle est une figure limite, peut-être, de cette suite de polygones. Alors, c'est exagéré, mais quand on connaît Archimède, c'est pas tant exagéré que ça. On en reparlera. En tout cas, c'est clairement pas chez ces auteurs-là. Alors là, on a le champ qui est un rond, de telle sorte qu'il ait la forme d'un cercle. Calcule les pieds ainsi. Soit une surface ronde de diamètre 70 pieds. Multiplie ceci par lui-même. 70 fois 70 font 4900. Multiplie ce produit par 11, il viendra 53 900 pieds. J'enlève de ce produit le 14e, c'est-à-dire 3 850 pieds. Je dis que ceci correspond au pied carré contenu dans ce cercle. Vous reconnaissez encore un algorithme. L'algorithme, là, de calcul de l'aire d'un disque. D'accord ? Donc si maintenant je regarde et je prends la longueur du diamètre, je le multiplie par lui-même, je multiplie par 11, je prends le 14e du produit obtenu, et voilà l'aire du disque obtenu. Je regarde un peu de mon côté, je prends mon brouillon, moi je sais que l'aire du disque, je le calcule avec pi r carré, je regarde, et là donc du coup je sors que Columel maîtrise une approximation de pi, à vrai dire assez classique, puisqu'en fait c'est une approximation antique, c'est une approximation qu'on doit déjà à Archimède, qui est celle de 22 septièmes. Alors vous voyez que c'est une très belle approximation. Enfin très belle, oui, assez belle. On est encore à une approximation à 10-3, là, on est au millième. Hein ? Bon, mais encore une fois, je n'ai pas ce que j'ai appelé tout à l'heure, je ne l'ai pas appelé, mais ce que j'ai sous-entendu tout à l'heure, qui est la méthode d'exhaustion chez Archimède, c'est-à-dire le fait de considérer le cercle entre deux polygones et de resserrer de plus en plus, et de trouver comme ça une approximation du rapport entre circonférence et rayon ou diamètre, j'ai un algorithme de calcul qui manipule simplement les grandeurs de ma figure. D'accord ? En passant, vous voyez aussi qu'il y a alors des algorithmes comme ça, je pourrais vous en donner énormément, qui reviennent à l'approximation 22 septième, mais ce qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle on agence les opérations et comment on les pense. Précisément, l'auteur ne fait pas 22 septième de D au carré. D'accord ? Donc il maîtrise son diamètre, il ne pense qu'à des opérations très élémentaires. Et notamment lorsqu'il s'agit de fractions, on va surtout avoir des fractions unitaires, c'est-à-dire de numérateurs 1, ou bien des sommes de fractions unitaires. Bon, je continue. Zut. On pourrait dire que quand même, bon, vous voyez ce que j'ai montré, c'est pas mal, sur deux figures, j'ai choisi que le triangle et le cercle, mais on a des algorithmes de calcul de surface de polygones qui sont tout aussi intéressantes et tout aussi proches de ce qu'on dirait aujourd'hui être la valeur exacte. Cela étant, considérer dire la valeur exacte, ça veut dire beaucoup de choses pour nous qui n'a pas grand sens pour ces auteurs de l'Antiquité tardive ou du Moyen-Âge. Puisque ça va être considéré, par exemple, racine de 3 ou pi comme des nombres et comme la valeur exacte de nombres. Bah, ça n'a aucun sens pour ces auteurs-là, puisque de toute façon, ils ne considèrent même pas ces nombres, ces grandeurs. Alors, mais quoi ? Columel, en réalité, va être relativement peu connu en dehors de son cercle d'agronomes et de la formation des agronomes dans l'Empire romain. Et pour une raison assez simple, c'est que Palladius va en faire un abrégé. Et chacun sait qu'à partir du moment où on résume une œuvre, eh ben on perd l'œuvre. On ne garde que le résumé. Donc Columel, avec ces dizaines de livres là, eh ben va tomber à peu près dans l'oubli à cause de son succès auprès de Palladius, qui dit il faut en faire un abrégé, et on va retrouver finalement, donc là vous avez le sommaire des étymologies d'Isidore de Séville, 6e siècle, on va retrouver alors des courtes citations de Columel chez les encyclopédistes du 5e et 6e siècle, qui, dans les chapitres mathématiques et géométriques, vont se référer à Columel. Alors, mais ça c'est restrictif, mais il y a un contre-mais. Alors, je ne sais pas comment on dit, mais. C'est l'ensemble de ces documents liés au mesurage des terres qui ont été rassemblés dans un corpus unique qu'on appelle le corpus agrimensorum. Alors, corpus, ça veut dire un ensemble de textes. Hein. Et puis, agrimensorum, agri, on a compris ce que c'était. C'était les champs, la terre. Et puis, mensorum, les mesureurs, la mesure, c'est l'étymologie. Donc, c'est le corpus des mesureurs de champs, mesureurs de terre. Alors, ce corpus va prendre une importance considérable dans l'Empire romain. Et là, il faut vous rappeler de vos lectures d'Astérix et Obélix, où on cherche à quadriller l'Empire romain. On cherche à... je cherche mon mot. On fait la centurion, ou le centurion. C'est-à-dire, on cherche à carrer l'Empire. On cherche à transformer l'ensemble de l'Empire en petits carrés afin de le mesurer. Alors pourquoi ? Uniquement pour un but administratif, sous-entendu fiscal. Et c'est bien souvent le cas. Alors ça a un intérêt, en fait ça, c'est intéressant d'avoir toujours ça en tête, Et je vous le dis tout de suite, c'est que les procédures de tous ces agrimenseurs romains sont toutes, à ma connaissance, j'en ai pas trouvé une seule, par défaut. Elles sont toutes par excès. Mais ça, c'est déjà repéré par les spécialistes de l'Antiquité paléo-babylonienne, c'est-à-dire 2000 ans, 1800 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que la fiscalité a déjà... Enfin, bon, bref, je vais arrêter de critiquer. Je suis enregistré. Alors donc, vous voyez là l'assignation, hein, c'est ce que je vous ai appris, le centurion, c'est la manière avec laquelle on veut quadriller l'Empire, l'Empire romain, le vaste Empire romain d'Occident. Et puis, bah évidemment, vous avez là, c'est une représentation d'un manuscrit qui n'est pas dans la partie géométrique du manuscrit, hein, mais plutôt de la manière avec laquelle on organise les villages, l'empire pour l'administration. Alors, ce corpus agrimensorum ne naît pas de rien. Évidemment, il s'inspire largement des auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, des auteurs géoponiques, c'est-à-dire agriculture et élevage, et notamment d'auteurs comme Columelle, comme Isidore de Séville, etc. etc. L'idée, hein, il faut l'avoir en tête, c'est que ce corpus, ben, vous rassemblez dans un même corpus l'ensemble de tous les papiers que vous trouvez qui parlent de mesurage de champs, dans toutes les dimensions possibles, donc aussi de géométrie. Alors là, c'est très chouette, j'ouvre une parenthèse parce que vous avez reconnu, ce n'est pas du latin. Mais quand même, c'est des sources de latin. Voilà des agrimenseurs. Donc, dans les sources géoponiques grecques. Alors là, vous avez la référence notamment aux instruments. Hein ? Donc là, c'est écrit en grec. Qu'est-ce qui est écrit en grec ? Moi, je ne sais pas, je ne lis pas le grec. Je fais confiance aux personnes qui ont traduit ce grec. Là, c'est écrit « Ceux-ci s'en vont et partagent la terre ». Et là, une corde tendue a apaisé la discorde. Alors ça, c'est aussi très important parce que c'est un élément qu'on va retrouver dans la tradition des pays d'islam. C'est la manière avec laquelle on doit absolument valider la loi coranique, la loi islamique, par la mathématique ou la géométrie, d'accord, pour mettre d'accord tout le monde. Et donc, on va mettre en place des algorithmes de calcul ou des règles. Et c'est le juge qui doit faire ça, le khadi en pays d'islam, qui statue mathématiquement pour mettre d'accord tout le monde. On en reparlera en ce qui concerne la partie géométrie de la mesure qui prend en latin sa source ici. Et puis, j'aime beaucoup ces deux personnages-là, là, où finalement la corde n'a pas du tout apaisé la discorde dans ce cas-là. Ce n'est pas la peine de me taper. On t'a vu frauder. Donc, il y a une source importante chez les auteurs grecs, évidemment, mais aussi chez certains auteurs latins isolés, avec des résultats assez élémentaires, comme je vous ai montré tout à l'heure chez Columelle. Alors là, je ne vais pas vous donner de grands noms, je ne vais pas vous donner de grands scoops, parce que il est question de géométrie de la Terre, de praticiens, de formateurs, pour moi, géomètres, mais je vais laisser les guillemets, même si, en fait, beaucoup de ces auteurs-là vivent de la géométrie, donc ils gagnent leur vie de la géométrie. Donc d'une certaine manière, si on prend cette définition-là comme étant la définition du géomètre, ils sont absolument géomètres. Mais le plus souvent, malheureusement, ces textes sont anonymes. C'est-à-dire on a gardé le titre, mais aucun nom d'auteur. Donc là, vous êtes en face du Liber Podismus. Alors, je vous ferai attention, je vous ai toujours mis la référence ici des manuscrits. C'est aussi pour que vous voyagez, vous regardez un peu la tête des manuscrits, mais c'est aussi pour que vous voyez celui-ci, par exemple, c'est exactement celui que je vous ai montré tout à l'heure. Là, par exemple. Et vous reverrez une autre page de ce même manuscrit-là tout à l'heure. Tout ça pour dire quoi ? Ben, pour dire que, précisément, ce n'est pas que le corpus agrimensorum, la création tardive d'éditeurs qui auraient voulu mettre ensemble des textes en lien les uns avec les autres, c'est-à-dire avec l'agriculture. C'est, dès l'époque médiévale, une volonté de copistes. Donc les copistes, ce sont les personnes qui prennent des textes et qui veulent en faire des copies. Donc là, c'est au nom de la rose, hein, c'est un métier très, très connu et assez reconnu. Et donc du coup, depuis le VIe siècle, on va produire ces corpus et on va les mettre ensemble déjà. C'est-à-dire qu'on reconnaît en eux une certaine valeur scientifique et notamment pédagogique pour qu'ils soient rassemblés afin de mettre ensemble des connaissances géométriques et pas que. Moi, je m'intéresse à la géométrie ici. Vous retrouvez les figures de tout à l'heure. Hein. Ici, vous avez le triangle de côté 30. On n'est plus chez Columel. Mais évidemment, tous ces auteurs, ils s'empruntent les uns des autres. C'est très difficile de faire le lien. Et puis surtout, là, on travaille sur des figures particulières, mais à valeur générale. C'est-à-dire, ce que vous êtes capable de faire sur l'algorithme avec un triangle de côté 30, équilatéral, bah, vous pouvez le faire sur un triangle de côté 12, de côté 24, de côté 37, etc. Là, je vous donne ici le texte qui apparaît au niveau d'un triangle qu'on appelle scalène, c'est-à-dire classique, ni rectangle, ni isocèle, ni équilatéral. Donc, dans un triangle, l'idée est de calculer son aire à partir de la connaissance de ses trois côtés. Sous-entendu, je veux calculer l'aire de mon triangle sans passer par le calcul de la hauteur. D'accord ? Bon, tout à l'heure, je vous rappelle qu'on l'a déjà fait, mais pour uniquement le triangle équilatéral. Là, quel que soit le triangle, je joins les trois longueurs en une unique, je prends toujours la moitié, je la mets de côté et j'enlève de celle-ci les longueurs une à une. Ensuite, je multiplie les restes entre eux, je multiplie le résultat par la moitié mise de côté, je prends son côté, ce sera l'aire. Bon. Vous avez tous compris le texte, ou presque. Je vais prendre les côtés, je vais les appeler ABC, les côtés du triangle. Donc je joins les trois côtés ensemble, c'est le périmètre, je vais l'appeler P, c'est pas très original. Et je prends toujours la moitié, donc je vais prendre P sur 2. Je la mets de côté et j'enlève de celle-ci les longueurs une à une. Donc je vais enlever A à P sur 2, B à P sur 2, C à P sur 2. D'accord ? Je multiplie les restes entre eux. Les restes, c'est bien le résultat de la différence, d'une différence. Donc je multiplie P sur 2 moins A, P sur 2 moins B, P sur 2 moins C. Je multiplie le résultat par le moitié mise de côté, c'est-à-dire P sur 2. Et vous avez ici donc le produit P sur 2 moins A, P sur 2 moins B, P sur 2 moins C, P sur 2. Je prends son côté, ce sera l'aire. Ben, c'est quoi prendre le côté d'une grandeur ? Ben, c'est prendre la racine carrée de cette grandeur. Pourquoi ? Ben, parce que vous êtes... Il faut le carré, on a moins de mal à voir le carré, puisque le carré, il est à la fois arithmétique et géométrique. Eh bien, la racine carrée arithmétique, on peut géométriquement la voir comme le côté d'un carré. Ça, c'est un terme qu'on voit apparaître ici, mais qu'on utilisera encore et toujours jusqu'à la Renaissance. Hein. Même si le terme racine va faire son apparition, mais ça, on en parlera tout à l'heure à partir du XIIe siècle, en latin notamment. Bon, mais ça, c'est intéressant parce que là, on a un très bel algorithme qui nous donne une formule générale de calcul de l'aire d'un triangle sans passer par le calcul de la hauteur. Et cette formule, vous la connaissez... Non, beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est la formule de Héron d'Alexandrie. Alors, quand je dis c'est la formule de Héron d'Alexandrie, c'est la formule dite de Héron d'Alexandrie, puisque, à notre connaissance, pour la première fois, elle apparaît dans les Métrica de Héron d'Alexandrie. Pour les IPR qui sont dans la salle, c'est dans ce problème-là qu'arrive l'extraction de la racine carrée de 720. Donc, c'est-à-dire aussi l'algorithme d'extraction de racine carrée d'Héron, dit de Héron. Voilà. Alors, pour les autres aussi, mais ça les intéresse particulièrement, en fait, en ce moment. Bon. Là, il faut lire la traduction des Métrica de Bernard Vitrac et Fabio Acerbi, qui est disponible chez un éditeur italien. Bon, en tout cas, ce que je veux voir là, c'est que précisément, vous avez encore une fois un problème posé et un algorithme qui donne la solution. Je vais aller plus loin dans l'explicitation de ce que je veux vous dire. Aucune démonstration n'est donnée pour justifier que le résultat obtenu ici me donne bien l'aire du triangle, l'aire cherchée du triangle. D'accord ? On a un algorithme, on le met en place, on fait aller la machine, on a un résultat et on nous dit que c'est l'aire. Toujours dans le même très beau manuscrit de Florence, eh bien on a d'autres textes. Allez, vous ouvrez, hein, puis vous regardez. Alors par exemple, on a des extraits de géométrie à propos de la mesure de terrain. C'est cette page-là, exactement. Et c'est cette figure-là que je vous commente. Ça, c'est sympa. C'est un champ. C'est un champ rectangulaire. Alors pour voir quel type de problème on se pose dans ces corpus-là, eh bien là, il s'agit de savoir combien d'arbres on va pouvoir planter dans un champ rectangulaire de longueur et de largeur, enfin de dimension donnée, et étant donné l'espacement entre deux arbres. Bon, c'est des petits problèmes intéressants. Donc vous avez ici la longueur, la largeur, et vous lisez ici le nombre d'arbres que l'agriculteur pourra planter dans son champ. Vous avez un autre texte qui s'appelle le De Jugeribus Metuendis, qui est de la mesure en juchère, la juchère étant une unité de mesure antique et médiévale, romaine. Et là, vous avez une autre formule assez intéressante qui apparaît et qui se retrouve marqueur dans plusieurs textes, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous prenez un quadrilatère quelconque, pas nécessairement rectangle, c'est ça que je veux vous dire, pas nécessairement losange, pas nécessairement etc., etc. Et donc ce quadrilatère, il a quatre côtés. C'est la définition même du quadrilatère. On nomme A, B, C, D, ces côtés, et en fait, les agronomes ici disent, ben, pour calculer l'aire de n'importe quel type de quadrilatère, eh bien, en fait, vous faites le produit des moyennes des longueurs opposées. D'accord ? Et donc vous avez, donc vous prenez la somme, la demi-somme des longueurs opposées et vous faites le produit. C'est-à-dire que finalement, vous transformez votre champ à n'importe quelle forme, quadrilatère, en un rectangle dont la largeur serait donnée par l'un des deux et la longueur par l'autre. Donc on fait une modélisation ou une approximation qui peut être fine ou très grossière. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, finalement, quelle que soit la forme de votre champ quadrilatère, eh ben vous avez une formule qui vous donne, et c'est cette formule-là qu'on va apprendre en étant arpenteur, qui vous donne l'aire de votre champ. Précisément, c'est ce qu'on appelle la formule de l'arpenteur, ou la formule des arpenteurs. Encore une fois, c'est une formule qu'on retrouve déjà 2000 ans avant Jésus-Christ dans les tablettes paléo-babyloniennes. Alors je ne suis pas en train de vous dire que Columel, que tous ces gens-là ont trouvé les tablettes bien avant Jan Soyrup, Thurot d'Angin ou Christine Proust. Non, je ne vous dis pas qu'ils se sont parlé, non, je ne vous ai pas dit tout ça. Je vous ai dit, enfin j'espère vous faire comprendre que quand on fait un peu de mathématiques, quand on se pose des problèmes, eh bien d'abord les problèmes sont récurrents dans l'histoire, c'est-à-dire on se pose des problèmes sur les bords de l'Euphrate, à peu près les mêmes qu'à Cadiz, ou à Rome, ou à Bagdad, plus tard. Et puis, ben, finalement, on a à peu près les mêmes façons d'y répondre. Alors, même si les mathématiques, quand même, est bien une science cumulative, c'est-à-dire on repose sur les anciens, hein, sur ce qui a été fait avant nous, certains, quand même, retrouvent les mêmes résultats, et on ne peut pas seulement parler d'emprunt aussi facilement que ça. D'accord ? Voilà un autre manuscrit. Bon, ça, c'était juste pour vous montrer que ce n'était pas forcément aussi beau, un manuscrit. Ça pouvait être aussi comme ça. Bon, moi, je le trouve même plus beau que les autres. Et en particulier parce que là, vous avez de très très belles figures à l'encre rouge, ce qui n'est pas, ce qui est pas rare, mais ce qui n'est pas le classique. C'est un manuscrit qui est conservé à Bâle, qui a un certain nombre de textes du Corpus Agrimensorum, dont un qui s'appelle La présentation systématique de toutes les figures d'un auteur Balbus, qui serait du 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne, mais qui est en fait, dont les extraits va traîner à partir du 6e siècle dans ce corpus-là. Sarton, un des historiens des sciences célèbres du 20e siècle, qualifiera Balbus de l'un des meilleurs agrimenseurs romains. Alors, pourquoi ? Simplement par un jugement de valeur évident, dont nous devons nous méfier tous et toutes. Eh bien, parce que Balbus a décidé que dans ces quelques folios qui l'intéressent, enfin de ce qui nous est conservé, hein, de ce que nous conservons aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas des problèmes à résoudre, mais quelques éléments. Ah ben, le mot est mal choisi. Mais quelques extraits des éléments d'Euclide. Alors, donc là, c'est simplement pour vous dire, le gars de la conférence ce soir, il a dit qu'au 7e siècle, en fait, on faisait que des calculs. Ben non, au 7e siècle, au 8e siècle, on ne fait pas que des calculs. On fait des calculs, mais il y a aussi, dans ce corpus, quelques extraits de géométrie dite savante, c'est-à-dire une géométrie hypothético-déductive, une géométrie des définitions, des théorèmes. Alors, pas les théorèmes auxquels, finalement, ou les propositions auxquelles on a affaire quand on lit les éléments d'Euclide. Ceux-là, on ne les retrouve absolument pas. Ou quand on en retrouve, c'est des extraits, des énoncés uniquement, et pas des démonstrations. Par contre, les définitions, oui. C'est-à-dire, de quel objet on parle. Et là, vous avez, sur ce folio-là, un certain nombre des premières définitions du livre 1 des éléments d'Euclide. Et c'est en ce sens où Sarton dit, bah forcément, lui, il cite Euclide, lui, il est dans le théorique, lui, il est meilleur que les autres. Sauf qu'avec lui, je ne mesure pas un terrain. Bon, chacun... donc, le jugement de valeur, on peut le mettre des deux côtés. Alors, justement, je viens de poser la question de Euclide. Le grand géomètre de l'Antiquité grecque, 3e siècle avant Jésus-Christ. Qu'en est-il ? C'est la première fois que je vous ai prononcé ce mot-là depuis le début, que je vous saoule. Eh bien, on l'a ce Euclide, chez Balbus, mais on l'a encore un peu plus, mieux construit, mieux structuré, mieux rendu, dans ce qu'on même certains ont appelé une traduction des éléments d'Euclide, du grec au latin. Cette traduction des éléments d'Euclide du grec au latin aurait été réalisée au 6e siècle. Donc vous voyez, à peu près à la même époque qu'Isidore de Séville, celui qui, dans son encyclopédie en 15 livres, 15 volumes, a rédigé 2 ou 3 pages sur des mathématiques élémentaires, empruntant largement à Columel. Et cette traduction, vous en avez ici le premier folio, et vous voyez, encore une fois, c'est le dernier folio de la même bibliothèque de Florence, le même codex. C'est-à-dire que dans un même codex, on met tout ça. Alors ça, c'est intéressant parce que la science des codex, la codicologie, celle qui s'intéresse à regarder comment on a fabriqué... alors le codex, c'est le gros volume là qui regroupe toutes ces pages... Là, cette codicologie, aujourd'hui, elle nous renseigne sur l'utilité d'un tel corpus. Pourquoi on l'a construit et qu'est-ce qu'on en a fait ? C'est-à-dire, finalement, pourquoi il a été construit, mais comment il a circulé ? Et là, c'est très clair, c'est la formation des arpenteurs dans l'Empire romain d'Occident. Donc, on veut du pratique, nature algorithmique, mais en même temps, et ça, on le dit maintenant, eh bien, justement, les traces de Balbus ou les traces de ce qui pourrait être la traduction de Boès, qui en fait n'est pas une traduction de Boès, c'est pour ça qu'on appelle ça le pseudo-Boès, c'est-à-dire qu'on l'a attribué à Boès, mais ce n'est pas de Boès. qui sont des éléments pour réfléchir, pour raisonner, pour commencer à poser ce que pourrait être une géométrie hypothético-déductive. Donc là, vous voyez, vous avez un texte qui ne vise absolument pas ni à mesurer, ni à calculer des grandeurs étant donné d'autres grandeurs, qui n'utilise aucun instrument, mais qui est là pour définir des objets. C'est une partie ontologique, on peut dire, de la géométrie. Vous avez la définition, alors les premières définitions, hein, point, ligne, limite de ligne, ligne droite, surface, limite de surface, surface plane, angle plan, angle rectiligne, perpendiculaire, angle obtus, angle aigu, figure, frontière, cercle et centre d'un cercle. Cela étant, sont quand même les définitions les plus utiles pour les textes que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on vise tellement le lien fort entre théorie et pratique qu'on va questionner largement au Moyen-Âge. Bah effectivement, la théorie là est convoquée chez Euclide pour définir les objets qui nous intéressent, avec, que l'on va manipuler dans la géométrie de la mesure. Bon, eh bien, donc, comme si s'opposait dans l'historiographie du 19e et 20e siècle, c'était présenté comme une opposition. C'est-à-dire qu'il y avait la géométrie de la pratique, la géométrie de la mesure, les arpenteurs. Vous voyez, même Sarton reprend ça en disant l'un des meilleurs agrimenseurs. Tout ça parce qu'il se réclame d'Euclide. Tout ça parce qu'on définit quelque chose. Comme s'il y avait une opposition entre la théorie et la pratique. Eh bien, avant même que l'on prenne connaissance complètement du corpus arabe. Le corpus arabe, c'est-à-dire l'ensemble des textes rédigés en arabe dans les pays d'islam. Eh bien, certains latins, notamment philosophes, vont commencer à se poser des questions et établir des liens entre cette théorie et cette pratique. Pourquoi ? Pour l'enseignement. Et donc là, on voit, et ça c'est très intéressant, c'est le cadre, le contexte de l'enseignement médiéval qui va faire se poser des questions de lien entre la théorie et la pratique, de quel corpus on a besoin et quel corpus, pourquoi. Hugues de Saint-Victor est un personnage très connu du Moyen-Âge, autour de Chartres, et il s'intéresse, d'ailleurs c'est peut-être un des pères de la didactique au sens premier du terme, il écrit un ouvrage, le Didascalicon, qui s'intéresse à la manière d'enseigner la lecture. Et il écrit parallèlement un ouvrage qui s'appelle la Practica Geometriae, la géométrie pratique, où il s'intéresse philosophiquement à ce qu'elle est, cette géométrie pratique. Donc je vous ai mis une citation de Hugues de Saint-Victor, 11e, 12e siècle, qui manifestement, à notre connaissance, n'a pas connaissance de l'ensemble de la philosophie arabe et des textes géométriques arabes. Considérant que la discipline géométrique tout entière est soit théorique, c'est-à-dire spéculative, soit pratique, c'est-à-dire active. Donc vous voyez qu'il y a une dichotomie là entre les deux. Si la théorique est vraiment celle qui recherche avec soin la dimension des espaces et des distances par les seules spéculations du raisonnement, la pratique est celle qui est réalisée à l'aide de quelques instruments et qui tranche en conjecturant proportionnellement certaines distances de certaines autres. Donc il semblerait y avoir une opposition nette entre théorie et pratique, et surtout un schéma qui, à nouveau dans la pratique, partagerait celle entre une pratique artificielle, donc qui n'utiliserait pas l'instrument, mais qui utiliserait un raisonnement de type proportionnalité, de type travail sur les rapports. Et puis, une pratique active, instrumentale, c'est-à-dire là, j'ai besoin d'un instrument, donc j'ai besoin de la corde, j'ai besoin du carré géométrique, j'ai besoin, j'ai besoin de la groma. Ah ben oui, évidemment, j'ai oublié de parler de la groma. La groma, ce fil à plomb caractéristique du corpus agrimensorum, le seul instrument que les agrimenseurs romains utilisent. D'ailleurs, les agrimenseurs romains sont aussi appelés les grammatici veteres, pour faire rappel à la groma. Cette groma est un peu ce que ce qu'est la L'équerre d'arpenteur du 19e siècle qu'on voit dans les manuels scolaires de la Troisième République, là. Celle qu'on pose, on fixe. Donc cette groma a un fil à un plomb, et l'idée est de tirer les plans et de tirer la perpendiculaire. Perpendiculaire étant l'objet essentiel quand on veut mesurer. Et voilà cette définition de Dominicus Gundisalinus, qui, lui, contrairement à Hugues de Saint-Victor, se nourrit de la philosophie arabe, et notamment d'Al-Farabi, qui, dans son Issa'ulum, catalogue des sciences, va faire une classification des sciences en pays d'islam. Dans cette classification des sciences en pays d'islam, eh bien, il va y avoir, évidemment, la géométrie. Alors ça, c'est très important, parce que c'est dans ce contexte-là que la géométrie va prendre un essor considérable au Moyen-Âge, à partir de ce que je vous ai montré du corpus agrimensorum, assez éparse, réalisé à partir d'extraits, dont aucune synthèse, à part une accumulation de documents, n'a été réalisée jusque-là. Et Gundisalinus est un des traducteurs de la philosophie d'Al-Farabi. Dans son De Scientiis, dans cette traduction, on peut lire « La fin de la théorie est d'enseigner quelque chose. » La fin au sens de l'objectif. « Mais la fin de la pratique est de faire quelque chose. » Donc, alors ça, c'est très intéressant, parce que finalement, si l'on veut enseigner quelque chose, c'est pas vers la pratique qu'on va devoir se tourner. Hein, 10 minutes. Oh là 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 là. Mais c'est vers la théorie. Donc là, la question, c'est, mais quelle théorie ? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas suffisamment de théorie. J'ai une géométrie dite pratique. Et c'est là que, inévitablement, on se tourne vers les Pyrénées. Parce qu'on sait, enfin, beaucoup savent, notamment dans les monastères. Alors pourquoi dans les monastères ? Ben parce que c'est dans les écoles monastères, puis dans les écoles cathédrales, qu'on a la charge de l'enseignement. Et qu'on a la charge, notamment, de l'enseignement de la géométrie. Et donc, c'est dans ces monastères qu'on apprend. D'abord, c'est aussi dans ces monastères qu'il y a des arabisants. C'est dans ces monastères que certains arabisants disent pour combattre l'ennemi, c'est-à-dire celui qui a envahi la péninsule arabique, arabique, oh là là, ibérique, il est temps que j'arrête. Celui qui a envahi la péninsule ibérique, eh ben, il faut le connaître. Pour mieux le connaître, il faut connaître le Coran. Donc c'est comme ça que quelqu'un comme Robert de Chester descend en Andalous pour chercher le Coran. Mais en fait, c'est aussi comme ça que bien d'autres vont franchir les Pyrénées, ici, pour aller chercher dans plusieurs des villes, par exemple Tolède, hein, en particulier, la plus importante ville dans laquelle un corpus arabe sera défriché pour être traduit. Donc des érudits latins vont aller en Andalous, pas dans le Club Med, mais l'Andalous, donc c'est la partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane. Ce qui donnera l'Andalousie, qui n'a rien à voir avec l'Andalousie. Vous voyez, là, je vous ai mis la carte au lendemain de 711, qui marque l'arrivée des troupes arabes et berbères dans la péninsule ibérique pour mettre un pouvoir politique au nom de l'islam, donc islamisation et arabisation. Et là, je vous ai mis une carte à la veille de 1492, qui est la dernière époque, d'ailleurs pour toute l'Europe, d'une présence musulmane, d'une présence politique musulmane, c'est-à-dire d'un régime politique au nom de l'islam. D'accord ? Eh bien, c'est là qu'on découvre tout un corpus, donc philosophique, je vous en ai parlé, mais aussi, et bien sûr, mathématique, donc géométrique. Et le contexte, c'est, je vous l'ai dit, les écoles, et notamment les écoles cathédrales, mais aussi et surtout, on est au XIe, XIIe siècle, et c'est l'apparition des premières universités européennes, Paris, Bologne, Oxford, Montpellier. Et donc là encore, eh bien, on doit se fournir en texte théorique, puisque c'est ceux-là même qui forment à l'enseignement. Baugeois, historien des mathématiques médiévales, de sciences médiévales en général, qui a beaucoup travaillé le rapport entre théorie et pratique, notamment sur les chantiers des cathédrales, dit « Pour l'enseignement des 9e, 10e et 11e siècles, il ne subsiste donc que quelques bribes d'Euclide introduites dans des compilations où dominent les extraits des agrimenseurs romains. » C'est ce dont je vous ai parlé depuis une heure. Ce qui est en cause, ce n'est pas tellement la plus ou la moins grande extension des fragments connus d'Euclide, c'est le fait que ce pseudo-Euclide, à la manière utilitaire des agrimenseurs, n'a plus rien des vertus logiques et même philosophiques des éléments. Rien donc de leur inestimable valeur pédagogique. Il faudra attendre le XIIe siècle et les traductions d'Adélard de Bath, bon, il s'agit d'Adélard de Bath, c'est discutable, pour commencer à découvrir tout cela. Et donc, oui, il faudra attendre les traductions arabo-latines, c'est-à-dire l'appropriation massive par les érudits latins de la science des pays d'islam, celle écrite en arabe à partir du 8e, fin 8e, début 9e siècle, jusqu'au, pour ce qui nous concerne, 12e, mais bien au-delà, bien sûr. Donc, quels apports ? Oh ben, juste, on va parler un peu de géométrie euclidienne, un peu de géométrie de la mesure. Je vous donne quelques références sur archimédienne et sphérique. Mais vous allez vite me couper. Donc, géométrie euclidienne, ce que les Arabes appellent ilm al-handasa, qui est une science. Contrairement à ce que je vais vous dire tout à l'heure sur la géométrie de la mesure, qui est un art. Donc vous voyez là encore, même dans la terminologie, la distinction philosophique à faire. L'Euclide au Moyen-Âge, c'est qui l'Euclide au Moyen-Âge ? Eh bien, ce n'est pas un Euclide grec. C'est pas un Euclide grec parce que les seuls petits bouts d'Euclide grec que nous avons, ben, c'est ce que je vous ai appelé pseudo-Boès. Alors oui, il y a aussi un peu des morceaux, mais tout petit, sans doute issus du pseudo-Boès chez Isidore. Il y a ce qu'on a appelé aussi un pseudo-Gerbère, lié au Gerbère d'Aurillac, dont j'ai pas le temps de parler. Mais c'est surtout, indiscutablement, ces versions-là, des versions arabo-latines, c'est-à-dire des versions de traduction faite de l'arabe en latin. Et puis, fin 12e, on va avoir une première traduction gréco-latine, mais à partir d'une version grecque de Byzance. Donc, rien à voir avec la version grecque, enfin, une version grecque antique d'Euclide. Voilà un très beau manuscrit de Rabat, qui est assez connu. Vous vous reconnaissez pour beaucoup la figure liée au théorème de Pythagore. Et là, vous voyez bien qu'on a un changement de paradigme. On est dans une démonstration hypothético-déductive. On a une proposition. On y fait une démonstration selon le canon de la géométrie grecque. Donc voilà notre figure, célèbre figure du théorème de Pythagore, proposition 47 du premier livre des éléments d'Euclide, ici représenté. Alors, et puis là, finalement, on va pas avoir un Euclide au Moyen-Âge, on va avoir des Euclides au Moyen-Âge. On va avoir des traductions assez littérales, immédiates, des éléments, en tout cas de ce que nous avons en arabe. Les versions arabes disponibles sont aussi multiples. Elles ont été réalisées au 9e siècle, à la Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma, à Bagdad. Il y a grosso modo deux grandes familles pour trois versions différentes. Donc au moins une version arabe arrive en Andalous, vous comprenez pourquoi maintenant, et cette version est traduite en latin. La traduction la plus littérale et la plus connue pour être la plus utilisée, c'est celle de Gérard de Crémone, le traducteur le plus quantitativement important, et je dirais moi qualitativement important, parce que c'est celui qui décide de choisir le plus littéralement possible les textes arabes. Donc quand on lit le latin de Gérard de Crémone, on peut lire de l'arabe. Ça c'est important, puisque aujourd'hui on a accès à des textes arabo-latins dont la version arabe est perdue. Bon. Mais il y a Adélard de Bath, dont Baugeois vous a parlé, il y a Hermann de Carinthie, donc un troisième traducteur, il y a des réécritures, c'est-à-dire des auteurs qui ont l'Euclide arabe, mais qui décident de changer l'Euclide arabe, c'est-à-dire qui réécrivent, alors pas à leur manière, ça reste du Euclide, mais qui réorganisent, qui coupent, qui enlèvent des propositions, qui changent la place de certaines propositions. Bon, les Anglais appellent ça des reworking. Donc là, vous avez... Alors, vous voyez, ce qui est important, hein, c'est pas qu'après, on fasse un QCM de qui a fait quoi. Ce que je voulais vous montrer dans cette diapositive, c'est que il y a un nombre considérable d'érudits latins qui vont chercher l'Euclide arabe sur moins de 100 ans, sur une période relativement petite. Robert de Chester, Angleterre, alors il y a un mélange entre ce Robert-là et le pseudo-Boèce dont je vous ai montré tout à l'heure, dont on ne connaît pas l'auteur aujourd'hui. Johannes de Tinmu, qui est une autre version, et puis le célèbre Campanus de Novare, qui va faire sa propre version des éléments d'Euclide arabo-latine, qui sera celle qui fera autorité pendant toute la Renaissance, jusqu'à ce que Zamberti, un mathématicien de la Renaissance, dise « Ben enfin, excusez-moi, on ne peut quand même pas faire confiance aux barbares, aux sarrasins, on va prendre une gréco-latine. » Parce que la langue grecque est quand même beaucoup plus proche de la langue d'Euclide. Alors, modulo ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la langue grecque qu'on connaissait là, c'était la langue grecque de Byzance, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la langue grecque d'Euclide. Enfin, j'exagère. Et surtout, on sait aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un comme Gérard de Crémone, sa version arabe est sans doute beaucoup plus proche de la version dite d'Euclide, originale, que celle disponible à Byzance au Xe siècle. Donc, c'est une position idéologique, mais cela n'étonne personne. Et puis, et surtout, je dirais, des commentaires. Et là, les Latins vont s'approprier aussi un certain nombre de commentaires sur les éléments d'Euclide. Qu'est-ce que sont que des commentaires au Moyen-Âge ? Eh bien, on prend le texte, et puis, ligne après ligne, on les commente. Qu'est-ce que ça veut dire, les commenter ? Eh bien, on pose des questions sur tout. Pourquoi a-t-il choisi ce mot-là ? N'aurait-il pas pu choisir un autre mot ? Ah, il a mis la proposition 3 après la proposition 2. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre la 3 avant la 2 ? Et si on avait mis la 4 ? Ah, et si on oubliait le postulat des parallèles ? Ah, ben oui, qu'est-ce qui se passe si on oubliait le postulat des parallèles ? Ah, et si on n'avait pas le livre 5 ? Ah, et oh, tiens, le livre 10 ? Oh là là, le livre 10, il pose problème. Pourquoi le livre 10, il pose problème ? Bah parce que précisément, ce sont les nombres irrationnels, enfin dit aujourd'hui irrationnels, c'est-à-dire c'est l'incommensurabilité des mesures, la diagonale d'un carré par rapport à son côté. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Comment on peut les travailler ? Et ça, ça pose un vrai problème parce qu'on est, à ce moment-là, en train de transformer les mathématiques, notamment en passant aux grandeurs géométriques à des grandeurs arithmétisées, et on est sur le point de passer au nombre. Et donc là, ontologiquement, on doit se poser les bonnes questions. Avec quoi on travaille ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc ces commentaires mélangent philosophie et mathématiques, mélangent logique et mathématiques. Et ce sont précisément ces commentaires qui seront des leçons, des lectio ou des questio à l'université médiévale à Paris. D'accord ? Alors, cela ou d'autres. Hein. La géométrie de la mesure, l'art dont je vous ai parlé, Ilm el-Misa'a. Voilà par exemple un manuscrit arabe de Ilm el-Misa'a, conservé à Paris, qu'Ahmed Djebar a découvert à la fin du XXe siècle. Ça fait vieux ce truc. Enfin, dans les années 80 de 1900. C'est le texte, un traité d'Ibn Abdoun du Xe siècle autour de Murcia, une petite ville d'Espagne. Vous voyez des très belles figures qui avaient attiré mon attention il y a quelques années maintenant parce que je les ai retrouvées dans des textes latins. Ben, je ne vous ai pas mis la version latine. Mais en fait, finalement, on a des textes arabo-latins dont les versions arabes sont perdues qui entre définitivement dans ce chapitre dit de la géométrie de la mesure, c'est-à-dire celle des agrimenseurs d'une certaine manière. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter encore pendant 5 minutes sur ça ? Puisque je vous ai presque tout dit. Ben non, je ne vous ai pas tout dit. Parce que dans cette géométrie de la mesure arabe, puis donc latine, ben on va non seulement prendre ce qu'on sait faire des latins, et notamment Columelle, ben oui, puisque précisément on est dans la péninsule ibérique, dans la même que celle de Columelle. Et donc là, et ça, c'est très important. Hein. J'aurais tendance à dire que les Arabes ont tout inventé. D'autres auraient tendance à dire que les Arabes n'ont rien fait. Bah non, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux. Là, on est dans la péninsule ibérique et il y a des savoirs locaux. On l'a vu avec Columel, on les a vus avec les agrimenseurs. Qu'est-ce que vont apporter les Arabes au sens, les musulmans ou pas musulmans, juifs, chrétiens, mais en tout cas tous ceux qui écrivent en arabe, eh bien, c'est finalement poussé par les philosophes des sciences, sans doute comme Al-Farabi ou Ibn Sina, c'est une synthèse, c'est une organisation de cette discipline. Et puis surtout, dès le IXe siècle, avec des gens comme les frères Banu Moussa, on va apporter des versions théorématiques des algorithmes de calcul. Et par exemple, les frères Banu Moussa vont démontrer, à la suite d'Héron d'Alexandrie, mais sans rapport a priori, et bien vont démontrer la formule d'Héron que vous connaissez maintenant, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on a, pour la première fois au XIIe siècle, des versions que j'appelle des versions théorématiques, c'est-à-dire ce ne sont plus des algorithmes de calcul, mais c'est un théorème qu'on démontre à la méthode, à la Euclide, c'est-à-dire hypothético-déductif. Et puis surtout, on va au XIIe siècle mêler deux arts, peut-être les deux plus grands arts pour moi, la géométrie de la mesure, ilm al-misaa, et l'algèbre. Et comment l'algèbre va répondre à des questions de géométrie. Eh bien là, on reprend à peu près les mêmes problèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, mais on va les algébriser. Voilà le type d'un problème qu'on voit chez Abou Bakr, un auteur inconnu, probablement entre le Xe et le XIIe siècle, en tout cas sans doute postérieur à Ibn Abdoun. On ne connaît pas parce que je vous ai dit, on a perdu les versions arabes, on n'a que les versions latines. On est dans un carré et voilà le problème. Si on te dit j'ai retranché l'aire de ce carré de ses côtés et il est resté 3, quel est alors chacun de ses côtés? Ce que je vous ai caché là par manque de temps, c'est une procédure algorithmique de type ancienne qu'on aurait pu retrouver chez Columel, pourquoi pas. Ce qui m'intéresse là, c'est que l'auteur dit « Mais la résolution de ce problème par l'algèbre sera de toujours poser le côté comme la chose. » La chose, Shay, notre inconnu. Multiplie-la par elle-même et ce qui en résultera sera le bien. Donc je multiplie le côté par le côté et je trouve le bien. Le bien étant le x carré. Retranche-le aussi des côtés du carré qui sont 4 choses. Là, je ne fais que mettre en équation. D'accord ? Donc j'ai bien 4x moins x carré. Sauf si je me suis trompé. Il restera donc 4 choses moins le bien qui sont égales à 3. Et voilà une équation du second degré écrite ainsi. 4x moins x carré égale 3. Restaure. Ah, voilà le jabara, la racine de al-jabr, c'est la restauration. C'est celle qui fait qu'on va soigner les espèces malades, à savoir les nombres. Enfin, non, les quantités retranchées. J'ai dans cette relation, que j'ose à peine appeler équation, une quantité ici retranchée que je vais donc soigner par le principe de la balance. Ou comme vous... je vais lui additionner autant que ce qui est de manque, mais par contre, pour respecter, je vais aussi additionner ici le x carré. Et donc, j'obtiens ainsi, par restauration, le bien et 3 dirhams qui sont égaux à 4 choses. Il faudra rajouter ici, vous avez tous corrigé, un x. Et donc j'obtiens une équation, x carré plus 3 égale 4x. L'auteur, Abou Bakr, me dit, là je sais faire, je suis dans les catégories de problèmes, c'est le c'est pas Vergniaud ça, je suis dans le type 5 d'Al-Khawarizmi. Et le type 5 d'Al-Khawarizmi, je sais faire. Et là je fais mon algorithme et je fais mon algèbre. Donc il y a une volonté là, finalement, de mettre en place dans la géométrie de la mesure un art antique, je vous l'ai montré, la nouvelle discipline née au IXe siècle avec Al-Khawarizmi à Bagdad. Et puis, il y a définitivement ce couplage théorie-pratique, ce couplage avec l'action ou l'enseignement. Alors, c'est très drôle, parce que finalement, aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas enseigner sans action ou sans manipulation. Au Moyen-Âge, c'est tout à fait le contraire. L'instrument du démonstrator est une baguette, c'est pas Dark Vador non plus, mais L'instrument du démonstrateur est une baguette et une table de poussière. Donc l'instrument, c'est celui qui va faire que je peux tracer mes figures planes ou solides au sol, sur ma planche à poussière ou planche à sable. Quant aux instruments de l'exercitator, ce sont les mesures de la géométrie, à savoir la perche avec la palme, le doigt, le pied, le pas et la brasse. Et ça, c'est intéressant parce que c'est dans une préface d'une traduction arabo-latine du XIIIe siècle des éléments d'Euclide. Donc on fait le lien là entre les deux communautés. Et donc c'est ce que je vous dis ici, c'est un des textes qu'on anonyme où on retrouve une version théorématique donc de la formule dite de Héron qu'on démontre. Bon, très rapidement, la géométrie archimédienne, donc celle liée à Archimède et à ses textes et propriétés qu'il met en place, bien on a différentes versions de la mesure du cercle et donc toujours le travail autour de pi, si j'ose dire, des ouvrages à propos des surfaces courbes, où là, on regarde la sphère, enfin en tout cas la surface ou le volume de la sphère, mais on s'arrête là, puisque ce qui va nous intéresser dans la sphère ou géométrie sphérique est davantage du côté de l'astronomie, et donc un rapport étroit avec l'Almageste de Ptolémée, où là, on va aller plus loin, on va changer dans le quadrivium, ce quadrivium qui sera précisément quatre disciplines des arts libéraux à l'université. Quadrivium de Boès, ce même quadrivium qui est arithmétique, géométrie, musique, astronomie, qui complétera le trivium, lettres, d'accord ? Donc rhétorique, grammaire, dialectique, merci. Donc géométrie sphérique, là on a deux traditions grecques qui se mettent en place. Et donc de toute façon, hein, comme toujours, et ça c'est très important d'avoir en tête, et le chapitre de géométrie le montre très bien, mais je pourrais revenir sur d'autres domaines des mathématiques médiévales, on a à la fois l'appropriation de mathématiques dites arabes héritées des Grecs, mais aussi une appropriation des mathématiques arabes non héritées des Grecs, c'est-à-dire arabes originales. D'accord ? Et donc là, on fait finalement, au Moyen-Âge, eh bien, on s'approprie l'ensemble de ce savoir en arabe qui véhicule un ensemble de savoirs de tout le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. Je crois que je peux m'arrêter là.
Donc voilà, dans le quart d'heure qui reste, si certains ont des questions à poser à M. Moyon, voilà. Ah, une première question, j'arrive.
C'est pas parce que j'ai un micro jaune que je porte le gilet. Hein. Enfin, c'est pas pour ça que je le porte pas non plus. Enfin, ne voyez pas de lien étroit entre micro et gilet.
Bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Vous avez évoqué les écoles, monastères, cathédrales, les universités. En fait, est-ce que vous pouvez préciser à qui étaient destinés ces enseignements ? Et donc, si j'ai bien compris, les enseignements spéculatifs.
Oui, absolument. Enseignements spéculatifs, uniquement.
Et pour qui ?
Eh bien, pour les... Alors ça, c'est important. D'abord, pour l'autopromotion du clergé lui-même. C'est-à-dire que c'est le clergé qui forme le clergé. On va avoir un peu les choses différentes pour les universités parce que socialement ou sociologiquement, en même temps que les universités se mettent en place, une petite bourgeoisie apparaît. Vous voyez, je reviens sur mes gilets jaunes. Hein. Pardon. Donc une nouvelle classe sociale se met en place en Europe et va faire... Ce sera définitivement établi au cours du XIIIe et encore plus au XIVe siècle, qu'on appelle la bourgeoisie. Et donc il va y avoir principalement les clercs et les bourgeois qui vont fréquenter c'est école cathédrale puis université. Ce qui sera complètement différent d'ailleurs, si je m'intéresse un peu plus tard, non mais j'avais dit que je ne voudrais pas en parler parce qu'autrement on n'est pas accouché. Ce que je vous ai parlé du XIIIe siècle, donc j'ai obligé de vous parler de mon Fibonacci. Et là, on a une autre. Moi, j'ai faim. Hein, je pense que le soleil s'est couché, non? Donc j'ai le droit là, c'est bon. Il s'est pas couché le soleil? Ah ben moi j'ai l'impression. Hein. Bon, pardon. C'était une private job pour Moulay. Pardon. Bon. Ou là, en Italie, on va avoir autre chose, ou en Provence, par exemple, on va avoir des écoles qu'on va dire de type professionnel, qu'on appelle les bodegues d'abaco, ou les écoles d'abac, ou les boutiques d'abac, où là, alors pas du tout le clergé, ça c'est clair, et Fibonacci le dit d'ailleurs, hein, ça s'adresse, ces ouvrages s'adressent aux laïcs, ces ouvrages qui vont donner une partie du corpus qui circulera dans ces bodegues d'abaco, mais par contre quand même un peu de la bourgeoisie, mais une bourgeoisie orientée vers le commerce, la banque, première banque, hein, les premières banques européennes, et l'assurance. Donc il va y avoir finalement deux circuits d'apprentissage des mathématiques qui sembleraient d'ailleurs au XIIIe siècle être assez disjoints, c'est-à-dire que quelqu'un comme Fibonacci ne connaît pas trop ce qui se passe à Paris aux côtés des universités, et quelqu'un qui serait proche de l'université parisienne, comme Jordanus de Nemours, ne semblerait pas connaître les ouvrages de Fibonacci qui circulent au XIIIe siècle en Italie. Ça répond à votre question ?
Oui, merci.
Moi, j'ai une question très ingénue. C'est toujours sur les instruments de mesure, parce que tu as parlé de la corde, de la groma. Et moi, je me demandais s'il n'y avait pas quand même une filiation à trouver entre l'Antiquité, puis après les cadrans, puis finalement les carrés géométriques qu'on verra après. Parce qu'on retrouve un petit peu une évolution d'un cadran circulaire, enfin, faire de la proportion pour la mesure, puis après qui va se structurer un petit peu, puis finalement évoluer sur le carré géométrique. Donc, est-ce que tu as vu passer ce genre de choses, ou est-ce qu'il y avait d'autres instruments que ceux que tu as signalés ?
Il y a plus compétent que moi dans cette salle pour répondre à la question du cadran et du carré géométrique. Frédéric Métain, par exemple. Il vient de sortir. Ah ben voilà, il vient de se faire repérer. Patrick, tu lui diras. Non, alors je dois dire que je me suis pas. Tu vois, dans mes patates là, j'ai un peu laissé tomber la géométrie pratique instrumentale. Parce qu'elle est trop ingénieuse pour moi. Enfin, ingénieuse au sens ingénieur, technique. Cela étant, il va bien falloir s'y frotter, parce qu'en réalité, le XIIe siècle est encore un siècle de modification, puisqu'on va voir apparaître des nouveaux instruments, notamment liés à l'astrolabe, qui seront utilisés en partie dans les géométries pratiques latines. Moi, j'en ai pas vu dans l'ensemble des textes de Corpus Agrimensorum. Ah ben, les dioptres de Héron, ça oui. Ben, je crois que c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la filiation, elle est là, et en même temps, faut pas trop lui en donner, quoi. Là, je renvoie à Paul Vein et les invariants de l'histoire, un peu. On est aussi dans des technicités ou des éléments que je vous ai montrés suffisamment élémentaires pour qu'on puisse tous tomber à peu près sur les mêmes résultats lorsqu'on formule à peu près la même question. Bon, mais c'est une fausse réponse que je te fais. Xavier.
Donc, juste pour répondre, en fait, les praticiens, les arpenteurs avait une formation très minimale, hein, Marc l'a montré, et en fait, mis à part la mesure et puis les quatre opérations, c'est fini, hein, on ne va pas au-delà, surtout pas la proportionnalité, surtout pas des angles, surtout pas. On retrouve ça au XIIIe siècle, parce que Anne va présenter un atelier demain à ce sujet-là. On n'a pas de traces d'utilisation chez les arpenteurs, je veux dire dans la pratique, sur le terrain. J'aurais même des choses à dire sur les mesures des côtés des champs, parce que ça ne se fait pas à la mesure d'un côté des champs, ce n'est pas possible, hein, on ne peut pas le faire tout le temps, il y a des problèmes sur les mesures. Donc voilà pour compléter la réponse de Marc. Excuse-moi, Marc.
Excusez ma question très très naïve. Il n'y a pas de démonstration donc chez Columel. Et comment on fait pour convaincre la personne que, puisqu'il s'agit de payer des impôts, etc., comment on fait pour convaincre qu'effectivement c'est bien ces terres-là et que c'est juste, puisqu'on ne démontre pas ? Quelle est la validation de ces calculs ?
Bah, tu connais l'argument d'autorité ? C'est ce qu'on a appris. C'est comme ça. C'est ça. Bon, et malgré tout, on est dans des dimensions où, et ça, on le voit par exemple dans l'administration fiscale romaine, quand tu fais le quadrillage, ben, tu es dans le bon ordre de grandeur. Donc, oui, c'est. Il n'y a pas de. La pratique en elle-même, celle que tu peux faire, dans le cas idéal, sans dénivellation, sans montagne, sans machin, sans truc, correspond au calcul qu'on a l'habitude de mener. Bon.
Une dernière question. Là, vous continuerez, je pense, au cours du repas. Ou alors demain. Voilà, donc ben, je ne sais pas ce que vous voulez conclure. Non, plus d'informations, donc merci encore.
Merci à vous.
Merci, et puis bonne continuation.